Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Des informations, Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Okapi pour suivre l'essentiel de l'actualité. Voici les faits marquants de ce matin. Massacre à Rutshuru. Plus de 140 civils tués par le M23 selon Human Rights Watch. Un rapport accablant publié par l'ONG révèle des exécutions sommaires dans au moins 14 villages de l'est de la RDC. Le bilan pourrait dépasser les 300 morts. Lancement officiel des examens de fin de formation professionnelle en RDC. À Kinshasa, comme en province, les finalistes de 122 filières ont entamé les épreuves sans incident, marquant une étape clé dans la reconnaissance de leurs compétences. Invité du journal Miguel Massaïsaï, cycliste congolais engagé, il revient sur son projet Pédaler pour la paix, une initiative personnelle à travers laquelle il contribue à la recherche de la paix en RDC après avoir parcouru plus de 5000 km entre Goma et Cape Town. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. Ce mercredi, l'église catholique a perdu Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, hospitalisé depuis lundi à Monkolé pour des soins. Son état de santé avait été jugé préoccupant par le cardinal Fridolin Mbongo, qui avait invité les fidèles à prier pour lui dans un communiqué signé par l'abbé Clète Clay Mamvimba, secrétaire chancelier de l'archevêché. Âgé de 75 ans, depuis avril 2021, Monseigneur Kisonga avait présenté sa renonciation à sa charge conformément au droit canonique. Il avait également exercé les fonctions de vicaire général au sein de l'archidiocèse. Son départ laisse un vide au sein de la communauté catholique congolaise. Focus sur la mission du commandant de la force de la MONUSCO en Ituri, entamée lundi dernier. Ce mercredi à Djaïba, dans les territoires de Djougou, il s'est entretenu avec les différentes composantes de la population locale, ainsi qu'avec le responsable des services de sécurité. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire dans la région, mais aussi les pistes pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir les vivre ensemble entre communautés. Pour nous en dire plus, retrouvons sur place notre correspondant Jean-Claude Lokidile.
Le chef de Baïma Badjiré, le premier à prendre la parole, a salué les efforts de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. Kondo Lenga souhaite cependant voir des casques bleus assurer davantage cette protection au regard des moyens logistiques dont elle dispose. Il n'est pas normal, dit-il, que des hommes armés tuent et incendient des maisons à proximité des bases des soldats de la paix. Dudonek Barry, son collègue de Walendu Piti, a plaidé lui pour l'assistance humanitaire en faveur des populations victimes des attaques des miliciens aériens et de la Côte d'Ivoire, une attaque qui avait coûté la vie à 8 personnes. Justin Goudza, le chef de secteur de Walendu Diatsi, condamne lui les actes de provocation dont sont l'objet les communautés dans son entité, des attitudes qui remettent en cause les efforts de consolidation de la paix. Les représentantes des femmes à cette rencontre se sont pour leur part demandé à quoi servent ces conflits armés qui ne font qu'aggraver les souffrances de la population déjà paupérisée. De Fataki, Jean-Claude Loki, il est Radio Kapi.
Veuillez noter que ce jeudi, le commandant des forces de la MONUSCO a un agenda chargé comprenant notamment des rencontres avec les leaders des femmes et des jeunes, les membres de l'Union nationale, des associations culturelles de l'Ituri, ainsi que des échanges avec des acteurs de la société civile. Autre fait marquant dans ce journal, des graves accusations portées contre la rébellion du M23. L'organisation Human Rights Watch a affirmé que ces mouvements soutenus par le Rwanda auraient procédé à l'exécution sommaire de plus de 140 civils, majoritairement des Hutus, dans au moins 14 villages et communautés agricoles situées aux abords du parc national des Virunga dans l'est de la RDC. Ces atrocités se seraient déroulées durant le mois de juillet 2025 selon un rapport publié ce mercredi par l'ONG. Human Rights Watch évoque également des informations crédibles faisant état de plus de 300 victimes dans le territoire de Rutshuru depuis juillet, ce qui en ferait l'un des épisodes les plus meurtriers attribués au M23 depuis sa résurgence fin 2021. Lievin Mwinga nous en dit plus sur le contenu de ce rapport accablant.
Selon Human Rights Watch, entre le 10 et le 30 juillet, des combattants du M23 ont sommairement exécuté des habitants et des agriculteurs locaux, y compris des femmes et des enfants dans leur village, leur champ est près de la rivière Rutshuru, dans le groupement de Binza, au sein du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Des témoignages de sources militaires et l'ONU indiquent que l'armée rwandaise, les forces rwandaises de défense, RDF, étaient aussi impliquées dans les opérations du M23. Le groupe armé M23, qui bénéficie de l'appui du gouvernement rwandais, a attaqué plus d'une dizaine de villages et de zones agricoles en juillet et a perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de civils, principalement Hutus, a déclaré Clémentine de Montioy, chercheuse senior sur la région de Grand Lac à Human Rights Watch. À moins que les responsables de ces crimes de guerre, y compris au plus haut niveau, ne fassent l'objet d'enquêtes appropriées et soient sanctionnés, ces atrocités ne feront que s'intensifier, a-t-elle ajouté. Human Rights Watch dit avoir documenté ou obtenu des informations crédibles sur des meurtres survenus en juillet dans les localités de Boussessa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katuiguru, Kihito, Kiseguru, Congo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira et Rubari. Ces zones étaient alors sous le contrôle du M23 et plusieurs commandants du M23 ont été identifiés dans certains lieux.
Sur le plan diplomatique, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré ce mercredi à Yokohama au Japon Raouf Mazou, haut commissaire adjoint chargé des opérations au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR. Au cœur des échanges, le rapatriement de réfugiés congolais vivant au Rwanda ainsi que celui des réfugiés rwandais présents en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la primature. Alain Rung nous en dit plus.
Raouf Mazou a insisté sur le caractère volontaire de ce retour. Notre mandat est de faire en sorte que les réfugiés puissent rentrer chez eux de manière volontaire, en toute sécurité, qu'il s'agisse des Congolais au Rwanda ou des Rwandais au Congo. Le rapatriement est volontaire, les personnes qui souhaitent rentrer doivent pouvoir le faire sans être forcées, a-t-il précisé. Il y a des Rwandais qui se trouvent au Congo depuis de nombreuses années, parfois 10, 20 ou 30 ans. Leur retour nécessite des conditions appropriées ainsi qu'un soutien que nous devrons mobiliser. Nous devons faire tout notre possible pour que ceux qui désirent rentrer chez eux puissent le faire et que ceux qui souhaitent rester dans leur pays d'accueil puissent aussi le faire, a précisé Raouf Mazou.
Situation humanitaire préoccupante en Nord Kivu à l'occasion de la Journée internationale de l'aide humanitaire célébrée chaque 19 août. L'organisation Action pour la promotion de droits des enfants et de la femme APRODEF a apporté une assistance en non-vivres à 54 familles vulnérables du village Bugamba 2 situé dans le territoire de Nyiragongo. Selon le chargé de communication de l'organisation, la situation humanitaire dans cette localité reste alarmante face à ces défis. APRODEF lance un appel à la solidarité, invitant les autres organisations et les personnes de bonne volonté à s'engager à leur côté pour concrétiser le thème de cette année, agir pour l'humanité. John Biloto nous dresse un tableau sombre de la réalité sur le terrain.
La population souffre sur tous les plans. Les enfants ne partent pas à l'école suite au manque de moyens, comme les fournitures scolaires. Les enfants ne sont pas contrôlés et sont exposés à plusieurs dangers, en déambulant pour chercher à manger, jusqu'à passer des journées dans des restaurants pour laver les assiettes, en fait de manger les miettes qui restent à la table, et exposés ainsi à des risques d'exploitation. Et dans le cadre de la sécurité alimentaire, les parents n'ont pas assez de moyens, ce qui développe la malnutrition chez les enfants. Nous lançons vraiment un cri d'alarme à cette occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces enfants et familles qui souffrent dans les villages Bugamba. Ils ont besoin de vous, de votre soutien et de votre assistance pour voir si les enfants peuvent aller à l'école ce 1er septembre. Nous lançons un appel aux dons, même des accompagnements en agir pour rendre ces familles autonomes.
Autre sujet à suivre dans ce journal, les épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle ont été officiellement lancées ce mercredi à travers l'ensemble du territoire congolais. À Kinshasa, plusieurs hauts responsables du ministère de la formation professionnelle, dont les directeurs de cabinet, la secrétaire générale et l'inspecteur général, ont effectué une visite dans différents centres, notamment Boyokani, aide aux enfants démunis, Bolingo et l'Institut technique industriel Kamo. Ces examens qui se sont déroulés sans incident concernent les finalistes répartis dans 122 filières classiques. Pour ces apprenants, il s'agit d'une étape cruciale pour la valorisation de leurs compétences à travers l'obtention des documents officiels. Blaise Makassi signe ce reportage rendu par Stanislas Diumi.
À travers la République, 34 600 candidats, dont 12 547 femmes, prennent part à cette session nationale. Des filières innovantes comme photovoltaïque, sapeurs-pompiers, froid industriel, sculpture, appareillage technique, phytopharmacie, santé mentale, on les vend en poupe. Pour Valate Mitendo, inspecteur général à la formation professionnelle, ces épreuves permettent de mettre de l'ordre dans le fonctionnement du secteur professionnel. Et ceux qui finissent ces épreuves peuvent directement intégrer le monde d'emploi.
Nous avons ici deux catégories d'apprenants. Il y a ceux qui valorisent leur expérience acquise et ceux qui sont dans les établissements professionnels.
Pour Milne Mujinga de la filière phytopharmacie, ces épreuves couronnent des années de pratique.
Je suis en formation en pharmacologie pour devenir assistante en pharmacie. Ça montre qu'on peut nous évaluer.
Credo Nzau, quant à lui, revient sur ce qu'il attend à la fin de ses épreuves.
Bon, j'ai décidé de passer cette épreuve parce que c'est important pour nous. Vu que nous suivons une formation professionnelle, c'est très très important pour nous d'avoir aussi une qualification.
Ces épreuves pour cette année connaissent un taux d'augmentation de 40% comparé aux éditions précédentes.
Dans la province du Maniema, les épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle ont été officiellement lancées ce mercredi à l'école primaire Kindouville. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'éducation, représentant le gouverneur. Le directeur provincial de la formation professionnelle s'est dit satisfait du déroulement de cette session. Contrairement aux années précédentes, la province a enregistré cette année 900 candidats, dont 300 ont effectivement commencé les épreuves. Florence Kizalunga signe ce reportage.
Selon Madame l'inspectrice principale provinciale, ces 310 candidats, dont 91 femmes, sont répartis dans 7 centres de passation. Le directeur provincial pense que la formation professionnelle s'installe petit à petit au Maniema. Mwamba Bitulu Ramazani.
Au Maniema, nous sommes très contents du nombre qui a augmenté dans la participation par rapport aux éditions passées. Qu'est-ce qui fait que ce nombre soit élevé? Il y a d'abord les séances de sensibilisation, de vulgarisation des textes, et il y a aussi l'intérêt qui est en train de naître dans les esprits des fils et filles du Maniema.
Le ministre provincial de l'éducation encourage tous les candidats à un travail bien fait. Marungu Ouseni.
Leur demandons de prendre tous ces examens au grand sérieux. Aux intervenants de continuer toujours avec l'accompagnement parce que l'éducation c'est l'affaire de tous les Congolais.
Après plusieurs jours d'apprentissage, les candidats croient déjà à leur réussite.
Et nous sommes quand même contents que nous arrivons aujourd'hui à passer les examens, les épreuves. Et nous sommes contents parce qu'après ça, nous serons qualifiés et nous serons professionnels, quoi. Nous allons chercher du travail, nous allons trouver et nous allons en créer, surtout ça.
Signalons que ces épreuves vont se dérouler pendant 7 jours successifs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Enseignement pour clore ce chapitre. Un regard sur la rentrée scolaire qui approche à grands pas, fixée au 1er septembre prochain, conformément au calendrier de l'année scolaire 2025-2026. La rentrée mobilise déjà les écoles, prêtes à accueillir anciens et nouveaux élèves. Du côté des parents, l'heure est aux préparatifs, achat des fournitures scolaires, mais aussi rappel à l'ordre pour préparer mentalement les enfants au retour en classe. Mais qu'en est-il dans les établissements, qu'ils soient publics ou privé, comment se prépare-t-il à cette rentrée? Élément de réponse avec Luc Nzao.
Dans les écoles, tant publiques que privées, c'est la rentrée administrative. C'est-à-dire, ceux qui gèrent les écoles sont déjà de retour. Ils reçoivent les parents d'élèves qui viennent soit pour inscrire leurs enfants, soit payer déjà la compte ou encore retirer les dossiers de leurs enfants en vue du changement d'école. Sami Chibanda, intendant du complexe scolaire Mafuta, une école privée en Galema, nous parle de leur préparation.
Nous sommes déjà préparés dans tout le plan pour accueillir nos enfants sur l'enseignement, les formations, les enseignants sont encore en cours. On continue toujours à attendre les nouveaux inscrits.
Les écoles primaires publiques ont fait savoir leur désiderata, comme nous dit Souki Benjamin, directeur adjoint de l'EPKENGO dans l'enceinte de l'ITS Ngalema.
Nous avons d'énormes difficultés, surtout en banc. Avec 2 marqueurs par semaine, un enseignant peut consommer 2 à 3 marqueurs en 5 coups. Ça ne convient pas avec le peu de frais de fonctionnement que nous recevons. Parce que c'est une école de gratuité, on ne demande rien aux parents.
Les parents rencontrés dans les écoles ont aussi évoqué des difficultés difficultés, mais assurent qu'ils vont répondre à leurs devoirs.
On ne peut pas lâcher nos responsabilités. Actuellement, avec la vie, en tout cas, nous avons des difficultés de pouvoir acheter les fournitures scolaires pour nos enfants.
École et parents, malgré des difficultés exprimées, disent se battre pour une bonne rentrée scolaire.
Économie, cap sur les secteurs miniers. Les sociétés minières opérant en République démocratique du Congo sont désormais tenues d'acheter leurs produits pétroliers sous douane et de les déclarer afin de s'acquitter des impôts et taxes y afférents. Cette nouvelle exigence s'inscrit dans le cadre de réformes engagées par le gouvernement congolais pour relancer la croissance économique et à lutter contre la vie chère. À travers cette mesure, l'exécutif entend dissocier clairement la consommation domestique de celles liées aux activités minières dans le cadre de la réforme du secteur de l'aval pétrolier. Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont été mises en œuvre pour encadrer ce processus.
Actualité internationale.
Alors que le gouvernement israélien a annoncé le rappel de 60 000 réservistes en vue d'une offensive sur Gaza City, le Hamas accuse Israël de faire preuve d'un mépris flagrant envers les efforts de médiation pour un cessez-le-feu. Dans un communiqué, le mouvement islamiste affirme avoir accepté la dernière proposition de trêve soumise par les médiateurs égyptiens et qataris qui prévoit une pause de 60 jours et la libération de 10 otages vivants en échange de prisonniers palestiniens. Cependant, Israël semble déterminé à poursuivre son opération militaire, exigeant notamment la réduction totale du Hamas, la démilitarisation de Gaza et le contrôle sécuritaire de l'enclave.
L'invité.
Le cycliste congolais Miguel Massai Sai a accompli un exploit remarquable, relié Goma à la ville de Cape Town en Afrique du Sud uniquement à vélo. Une aventure de 3 mois à travers 6 pays dans le cadre de son projet Pedal for Peace, comprenez pédaler pour la paix. À travers cette initiative, Miguel Massai Sai souhaite sensibiliser le monde à la situation de guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et encourager l'engagement collectif pour la paix. Il revient sur ses motivations et son parcours dans cet entretien avec Vanessa Nkongola.
Miguel Massai Sai, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cycliste congolais. Vous avez lancé un défi, Pedals for Peace. Vous avez quitté Goma jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ces périples?
Ce qui m'a motivé à faire ces périples, c'était la souffrance que je vois que nous sommes en train de vivre, surtout qui est causée par rapport à la guerre. Et je me suis dit, étant un jeune sportif de la République démocratique du Congo, je peux aussi faire quelque chose pour voir si on peut trouver la paix chez nous au Congo. Et je me suis dit que les seules armes que j'ai, c'est mon vélo, parce que je suis sportif. Et le vélo, c'est une arme qui est pacifique. Et je me suis dit, j'ai pris mon vélo, j'ai commencé la route, juste pour porter un message de paix à travers l'Afrique.
3 mois après, vous avez quitté Goma le 17 mai et vous êtes arrivé à Cape Town. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face?
Beaucoup de difficultés en route. Des places pour dormir, c'était compliqué parce que je n'avais pas de sponsors durant tous les trajets. Des animaux dans les parcs, j'ai traversé des parcs avec des animaux sauvages. C'est parmi les difficultés, parfois les problèmes mécaniques avec mon vélo. Donc, c'était compliqué.
Comment avez-vous été reçu dans différents pays par lesquels vous êtes passé?
Dans tous les pays par lesquels je suis passé, j'ai été bien reçu. Et les Congolais m'attendaient pour m'accueillir, mais également il y a d'autres personnes qui m'accueillaient, surtout et me donnaient des places pour porter mon message, pour parler du message de paix.
Alors parlons justement du passage dans différents pays et les messages de paix. Vous êtes aussi passé par le Rwanda. On sait que les deux pays sont en conflit. Et comment est-ce que vous avez été accueilli sur place au Rwanda?
Pour le Rwanda, j'ai traversé le Rwanda parce que c'était parmi mon chemin donc pour aller à Tanzanie.
Alors, parlons justement du message. Quel a été le message que vous avez porté tout au long de votre périple?
Mon message était la paix et l'unité de la jeunesse africaine.
Et comment vous l'avez partagé?
J'organisais des conférences avec des jeunes. J'ai été invité à des radios, des télévisions, dans des églises, partout en cours de route. J'ai parlé de la paix chez nous au Congo et de la situation qui se passe chez nous.
Alors, vous êtes arrivé à Cape Town le 10 août dernier. Quel est le message fort que vous lancez après ce long périple pour la paix dans l'est du pays et surtout aussi dans toute la région du Grand Lac?
Donc, le message que j'ai pour mon pays, pour la paix, j'ai dit ceci. Nous devons être unis pour que nous ayons la paix, mais également nous devons multiplier des petites actions comme je l'ai fait Pedos for Peace pour que nous ayons la paix. Parce que la paix, premièrement, ça commence par la conscience. Si on est conscient que nous voulons la paix et nous développons cette conscience pour la paix, nous aurons la paix. Mon message est soyons conscients pour la paix chez nous, parce que ça nous concerne tous.
Et aux jeunes qui vous suivent et qui sont dans les groupes armés partout?
Qui sont dans les groupes armés, j'étais très conscient et de multiplier des actions pacifiques dans les pays. Parce que si on n'est pas conscient et on s'est fait utiliser, il n'y aura pas la paix. Parce que la paix nous concerne et à partir de la paix, nous serons aussi développés comme d'autres pays si nous avons la paix.
Miguel Massaïsaï, Radio Okapi vous dit merci.
Merci à la Radio Okapi et merci à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci.
Notre invité Miguel Massaïsaï qui parlait de son projet, une initiative personnelle à travers laquelle il contribue à sa manière à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. D'ici là, restez à l'écoute.